Ah, très bien. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'épître de Jacques, comme petite méditation avant notre temps de prière. Jacques chapitre 4, et nous allons lire les trois premiers versets. Jacques chapitre 4, les trois premiers versets. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos membres qui combattent vos, non, n'est-ce pas de vos passions, pardon, qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas, vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir, vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Alors voilà, petit texte d'introduction pour notre temps de prière. Au verset 1, Jacques pose deux questions. Si on regarde un petit peu la structure de ces trois versets, il y a deux questions qui sont posées. D'où viennent les luttes parmi vous? N'est-ce pas donc de vos passions qui combattent dans vos membres? C'est une seconde question un peu particulière. Au verset 2, on a quelque part quelque chose qui est comme une raison d'être, une explication un peu. Et puis au verset 3, on a on pourrait dire une raison spirituelle, hein, une implication spirituelle à ce qui est décrit dans les versets précédents. Donc, si on regarde les deux questions, qu'est-ce que ces deux questions mettent en évidence? Si on regarde les deux questions ici, qu'est-ce qu'elles mettent en évidence? Tout de suite, ça saute aux yeux. J'ai pas entendu? Voilà, il y a des luttes et des querelles. Donc, ça met en évidence la réalité des luttes et des querelles. Parmi qui? Parmi vous. C'est qui le vous ici? C'est tous les gens de la planète? Oui, les chrétiens. Ils s'adressent, si on regarde au début de l'épître, qui s'adresse, verset 1, il dit, il s'adresse aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Donc c'est aux croyants dispersés. Et il dit qu'il y a des luttes et des querelles. Donc ça c'est la première chose. Et puis, il y a une deuxième question. Qu'est-ce que cette deuxième question met en évidence ici? Oui? J'ai pas entendu. Oui, ça c'est déjà mis en évidence au verset 1 un peu, mais c'est vrai, c'est aussi là. Qu'est-ce qu'il dit? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? La question d'avant, c'était quoi? D'où viennent? Donc c'est une question qui pose, c'est quoi comme question? Une question qui demande, on pourrait dire quoi? L'origine ou la, notre mot, la source, hein? La source de quoi? Des passions, des querelles et des luttes. Hein? Si on nous posait la question, on aurait dit quoi? On aurait dit, mais c'est l'autre, hein? C'est à cause des circonstances, c'est parce que c'est à cause du président, c'est à cause de la loi qui repousse l'âge de la retraite, etc. On trouverait beaucoup de choses. Mais qu'est-ce qu'il dit ici? Et il dit donc, n'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Donc il donne une indication sur la source de nos querelles et de nos luttes. Ensuite, verset 2, qu'est-ce qu'on peut voir ici? Qu'est-ce qu'il décrit? Vous convoitez, vous ne possédez pas, vous êtes meurtrier, vous êtes envieux, et vous ne pouvez pas obtenir, vous avez des querelles et luttes, et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez. Enfin, jusque-là, vous avez des querelles et des luttes. Qu'est-ce qu'il fait ici? Oui, c'est ça, il dit, vous avez. Mais quelque part, il dit qu'il y a, malgré ces querelles et ces luttes, une grande insatisfaction. Faction. On le voit ici quand même. Hein, il dit, vous convoitez et vous ne possédez pas. Mais il y a aussi des actions qu'ils commettent. Il dit, vous êtes quoi? Vous êtes meurtrier. Vous êtes envieux. Oui. Mais il dit d'abord, il dit voilà, qu'il y a quelque chose qui est une aspiration intérieure, convoitée, et puis en même temps, il dit, vous ne possédez pas. Puis après, il dit, vous êtes meurtrier, vous êtes envieux. Vous avez des querelles. Donc ça c'est le verset 2. Donc on pourrait dire ici qu'il décrit un petit peu leur état d'âme, la raison d'être de conflit. Et puis au verset 3, verset 2 et 2 et demi, si vous voulez la fin du verset 2 et le verset 3, on pourrait les mettre ensemble. Il dit vous demandez, il dit, et vous ne recevez pas. Verset 3, pardon, voilà, c'est ça. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions ici. Et donc ça, c'est quoi? Ça, c'est quand même... Ça pourrait ressembler à quoi, ça, ici? Vous demandez. La demande, c'est quoi? Dans quoi est-ce qu'on pose nos demandes? La prière. Hein? Donc ça rejoint un peu notre thème, c'est la prière. Il dit qu'il y a un effet sur votre prière. Votre prière ne trouve pas de l'exaucement. Il dit pourquoi. Il rattache ça avec les luttes, les querelles et les passions qui combattent dans les membres. Il dit que ça a un effet sur la prière et sur son exaucement. Alors, si on regarde rapidement un petit peu ces différents points, premièrement, la réalité des luttes et des querelles. Hein. Alors, le mot lutte ici, c'est polémos. Polémos, ça vous rappelle quoi? Polémique. Donc, ça vient de là, hein, de la polémique. Désigne, c'est un combat. Parfois, il est traduit par le mot guerre dans d'autres textes. Hein. Par exemple, en Matthieu 24, 6, il dit « Vous entendez parler de guerre ». C'est le même mot, ok? Polémos. Donc, il dit « Vous avez des guerres entre vous, les chrétiens », etc. Et puis, il dit aussi des querelles. Et le mot qui désigne plutôt des disputes individuelles ou bien des batailles. Alors, est-ce que ça veut dire que les chrétiens se donnent des coups de poing? Je ne pense pas qu'il y avait ça, mais probablement au moins dans les mots, hein, dans les attitudes, il y avait ces querelles. Donc, Jacques fait, on pourrait dire ici, une utilisation un peu métaphorique hein, des mots. Il n'est pas que physiquement, ils se donnaient des coups de poing. Mais il y avait des relations qui étaient des relations parfois conflictuelles. Et donc ça c'est la triste réalité. Et donc il donne la source. Il dit d'où viennent les luttes et les querelles parmi vous? Et je crois que si on nous posait la question, je l'ai dit, on penserait toujours que ça vient de l'extérieur. Vous prenez n'importe quelle situation. Hein, parfois il y a des gens qui vous racontent une situation dans leur propre famille et on le sent, c'est toujours présenté comme venant de l'autre. Hein? C'est l'autre c'est à cause de l'autre que les situations sont comme cela. Et ce que Jacques dit ici, en deuxième lieu, il parle de la source donc de ces conflits. Il dit que cette source, elle n'est pas extérieure, mais elle est intérieure. Elle est intérieure. Et donc, ce sont vos passions qui combattent, dit-il, dans vos membres. Hein? Et c'est important de considérer ça. Parce que, je le disais tout à l'heure, on a toujours tendance à croire que c'est les autres qui constituent le problème. Hein. C'était Sartre qui avait écrit quelque chose qui disait « L'enfer, c'est les autres. Hein. » L'enfer, c'est les autres. Mais la Bible dit ici que le problème, c'est nous. Donc les conflits existent. Il ne dit pas qu'il n'y a pas de problème chez les autres. Hein. Mais il dit qu'on ne doit pas considérer que c'est simplement à cause des autres que les problèmes existent. C'est-à-dire à cause de nous aussi. Hein. C'est comme quand on est dans un embouteillage, on peut dire, mais qu'est-ce qu'ils font là, tous ces gens? C'est pas possible. Ils font des embouteillages. D'accord? Alors, bien sûr, ils font des embouteillages, mais moi, je suis là-dedans et je fais aussi l'embouteillage. D'accord? Donc, c'est un petit peu la même chose. Et donc, il dit que la cause des conflits extérieurs, on peut le lire ici, c'est une frustration des désirs que l'on a à l'intérieur. Quand on lit le verset 2, regardez le verset 2 encore, il va expliquer en quoi le combat dans les membres est l'expression parfois d'une frustration, de désir insatisfait. Il dit verset 2, « Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas. » Alors, qu'est-ce qu'il dit ici? Qu'est-ce qu'il dit là? Comment vous comprenez cela? Oui, mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit, vous convoitez et vous ne possédez pas, comme c'est écrit dans vos bibles, parce que c'est écrit comme dans la mienne. Et puis après, c'est écrit, vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Okay? Alors, on pourrait comprendre ça comme si l'apôtre Jacques disait que leur convoitise est inefficace. D'accord? Ou que leur meurtre ou leur envie, bon, ça n'amène pas des résultats. Il dit, vous convoitez et vous ne possédez pas. C'est-à-dire, vous avez beau convoiter et vous n'avez rien. Est-ce que c'est ce qu'il dit ici? Est-ce que vous connaissez des gens qui ont convoité et qui ont eu ce qu'ils ont convoité? Dans la Bible, dans la Bible, par exemple. Le roi Akab, il a convoité quoi? Il a convoité la vigne de Naboth. Est-ce qu'il a eu la vigne de Naboth? Oui, il l'a eu. Il l'a eu quelque part. Matériellement, il l'a eu. Un autre exemple? Acan, qui a dit voilà, qu'il a vu le beau manteau de Chinéa. Il dit, je les ai convoités, puis il les a pris. Il les possédait. Puis on peut trouver pas mal d'exemples encore comme cela dans la Bible, et puis des fois, même dans notre société, on trouve des gens qui convoitent quelque chose, ils se mettent en quatre pour l'avoir, et puis ils l'ont, finissent par avoir certaines choses. Ce n'est pas pour tout, mais ça arrive qu'il l'ait. Donc, peut-être qu'il faudrait comprendre le verset un peu différemment. Et ce que Jacques semble dire, peut-être plutôt, c'est que qu'il y a un lien de cause à effet entre la frustration intérieure et la violence extérieure. Parce qu'il parle d'envie, il parle de, je relis le verset, il parle de convoiter, il parle d'être envieux, et en même temps, il parle de quoi? De meurtre. C'est pas la même chose quand même, hein? On pourrait dire, hein? Être envieux et puis meurtrier, c'est pas la même chose. Parce que quand je suis envieux, je désire quelque chose, hein, par rapport à un autre, j'aimerais être à cette place. Et quand je suis meurtrier, quoi, j'ai commis un acte quelque part extérieur. Et je vais vous lire ce verset dans d'autres traductions. Je pense qu'ils tiennent compte de ce sens-là. Je pense que dans la Darby aussi, on l'a. C'est pas quelqu'un la Darby là pour lire, je sais pas. C'est quelqu'un là. Vous savez que vous avez des téléphones ou des tablettes, des Bibles. Parce que plus personne n'a des Bibles en papier là. Ah non non, on va faire une. C'est pas possible ça. Il n'y a que moi avec ma Bible en papier. Ah, levez-moi les Bibles en papier que je puisse... Ah, bien, on va donner honte à ceux qui n'ont pas de Bible en papier, là. Quelqu'un là? Bon, c'est pour vous donner le temps de chercher, hein, oui. Oui? Celui-là, Jacques 4:2. Voilà, c'est écrit presque dans le même sens. Hein. Moi, je vous lis dans la traduction Parole de vie, hein, dit, vous voulez quelque chose et vous ne pouvez pas l'avoir. Alors, vous êtes prêt à tuer. Vous êtes jaloux et vous ne pouvez pas obtenir ce que vous désirez. Alors, vous luttez et vous battez. Et puis dans la Bible français courant, il dit, vous désirez quelque chose, mais vous ne pouvez pas l'avoir, et alors vous êtes prêt à tuer, un peu le même sens, vous avez envie de quelque chose, mais vous ne pouvez pas l'obtenir, et alors vous lancez dans des querelles et des conflits. Et donc quelque part, ça sonne comme si ce que Jacques dit ici, c'est que les querelles et les luttes ont pour cause une frustration intérieure. Vous désirez quelque chose, vous n'arrivez pas à vos fins, alors vous êtes prêt à tuer pour pouvoir arriver à cette fin. Vous voyez un peu l'image? C'est ça ici. Hein. Vous êtes envieux, vous n'arrivez pas à posséder malgré vos envies, alors vous faites des querelles. Hein. Et quand on réfléchit bien dans nos relations, peut-être dans notre foyer, ça arrive un peu comme ça, n'est-ce pas? On est frustré, on veut des choses, et parfois, ça éclate, ça peut éclater en colère ou en querelle. Et on pense qu'il y a un problème là, mais en fait, c'est nous, c'est parce que les choses ne vont pas comme nous voulons. Nous avons le désir que les choses aillent comme ça ne va pas comme ça. Alors on se met en colère, et puis parfois on va au mot, et puis parfois ça va jusqu'aux mains, malheureusement, etc. Et ça peut arriver jusqu'au meurtre. Dans Marc chapitre 15, versets 9 à 10, le texte montre que c'est par envie que la motivation des pharisiens et des sacrificateurs, c'était l'envie quand ils ont fait crucifier Jésus. Alors je vous lis, hein, il dit, Pilate leur répondit, vous voulez que je vous relâche le roi des Juifs? Et il dit, car il savait que c'était par envie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré. Ce qui les a poussés à faire ce qu'ils ont fait, c'est par envie. Voilà, donc c'est important de voir ça parce que cela montre que les conflits, les choses difficiles, les relations difficiles que nous avons parfois avec les autres ont pour source notre propre insatisfaction. Et c'est parce que nous sommes insatisfaits et que nos passions combattent dans nos membres que que nous agissons comme nous agissons à l'égard des autres. Ce n'est pas la situation qui fait le problème, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de nous qui cause le problème. Alors cela nous pousse à être attentifs à nous-mêmes. Cela nous pousse à être attentifs à nous-mêmes et à ne pas nous dédouaner trop vite, à considérer que ce qui me motive dans les mauvaises choses, dans les mauvais gestes, plutôt que c'est ce qui est en moi qui motive parfois mes mauvaises attitudes, mes mauvais gestes, mes mauvaises paroles, et ça provient du fond de moi-même. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose et dernière chose, c'est les... Comment je vais dire ça? Les implications, l'implication spirituelle de cette situation. Pas Pierre, Jacques dit, verset 3, et vous ne possédez pas parce que vous ne... Quoi? Vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos... Passion. Alors, ce qui est évoqué ici, hein, c'est les implications de ce manque, de cette insatisfaction, de ce manque de satisfaction. Il y a deux choses que Jacques dit ici. Il dit d'abord, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. On pourrait remplacer ça par un autre mot, remplacer par un autre mot. Vous ne priez pas. Hein? La prière consiste essentiellement à demander au Seigneur. Vous ne possédez pas parce que vous ne priez pas. On pourrait presque dire cela. Hein? Et puis, après, il dit, vous demandez, mais vous ne recevez pas. C'est-à-dire, on peut dire, soit les gens peuvent dire, mais moi je prie Dieu tout le temps. Et puis il dit, mais, j'ai entendu des gens qui nous disent ça, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié, j'ai demandé au Seigneur. Et il ne m'a pas donné. Et là, il dit, mais vous demandez et vous ne recevez pas parce que, pourquoi? Vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Donc, il y a deux choses ici. Il y a d'abord l'absence de prière. Et puis, deuxièmement, il y a la prière qui n'est pas convenable au Seigneur, qui n'est pas faite comme il faut, hein, ici. Et donc, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Là, il met en évidence, voilà, un manque singulier de prière. Et puis après, quand il dit vous demandez et vous ne recevez pas, il met en évidence le fait que l'on prie mal. Et donc, la prière, c'est une attitude qui est difficile à maintenir. Je lisais un article juste cet après-midi où l'auteur disait, on n'a aucun mal à remplir des salles, des lieux de culte avec des concerts. Vous faites un concert de louanges. Un mardi soir, vous faites un concert de louanges. Il y aura du monde. Il y aura du monde. Vous faites les réunions spéciales de fêtes, etc. Il y aura du monde. C'était aux États-Unis qu'il disait. Il dit par contre, vous faites une réunion de prière et il dit la réunion de prière, elle est délaissée. Pourquoi? Parce que c'est ce que Jacques dit, il dit, vous ne priez pas, parce qu'on ne prie pas en fait. Ce n'est pas quelque chose que l'on aime faire. Ce n'est pas quelque chose que l'on aime faire. Et ça, c'est une conséquence parfois des luttes et des choses qui combattent dans nos membres. Hein. On est envieux, on a plein de choses. Par contre, on voudrait ceci, on voudrait cela, construire ceci, acheter. On est plein de choses comme cela. On est insatisfait avec les autres, etc. Et tout ça, il dit, mais ça amène à un point, c'est que vous ne priez pas. C'est que vous ne priez pas. Et franchement, nous pouvons regarder dans notre propre vie, quand nous sommes insatisfaits, mécontents, il y a peu de chances que nous soyons à genoux en train de prier. C'est quelque chose qu'on ne fait pas quand on est dans cet état-là, c'est de prier. On repousse la prière. Donc Jacques dit ici, et ça c'est à cause de nos passions qui combattent dans nos membres. Il dit même lorsque vous priez, il dit vous priez de manière à satisfaire vos passions. On voit encore là, c'est la satisfaction des passions qui crée ces querelles-là, mais la propre et on cherche même par la prière à répondre à cette même satisfaction de nos désirs. Il y a un problème là. Il dit c'est ça qui pose le problème. Et le mot satisfaire ici, c'est le sens d'épuiser, de dépenser. Hein. Il dit c'est celui qu'on trouve en Luc 15, 14 quand il dit lorsque le fils prodigue eut tout dépensé, il est allé jusqu'au dernier euro, il a dépensé, il n'y avait plus rien. Et donc lorsqu'il dit que vous cherchez à satisfaire vos passions, il dit voilà, vous cherchez à aller jusqu'au bout de vos passions, à les épuiser quoi. Jusqu'au dernier euro. Vous voulez les satisfaire. Eh bien, il dit que, effectivement, dans ce cas-là, vous n'avez pas de réponse. Parce que c'est ce que vous cherchez. Vous ne cherchez pas la gloire de Dieu, mais vous cherchez vos propres désirs, vos propres satisfactions. Et donc, l'Écriture, je vais terminer avec ça, nous enseigne que Dieu répond à la prière de ses enfants. N'est-ce pas? Il répond à la prière. Jacques dit ici, vous demandez, vous ne possédez pas, c'est qu'il y a un problème, parce qu'il dit que Dieu répond à la prière de ses enfants. Je ne vais pas lire les passages, mais Matthieu 7, versets 7 à 11, ou 1 Jean 5, 14, vous trouvez cela. Mais l'Écriture enseigne aussi que l'exaucement de la prière requiert une manière correcte de prier. Et c'est pour ça que Jacques dit, vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Jésus lui-même a dit en Matthieu que lorsque vous priez, ne soyez pas comme les païens, qui etc., etc. Voici donc comment vous devez prier. Pas pourquoi, il dit, mais voici donc comment. Ça veut dire qu'il y a une manière, une attitude, une pensée. On avait vu la dernière fois, je crois, dans Matthieu chapitre 6, la prière de Notre Père, où Jésus montre comment vous devez prier. Et plus loin dans cette même épître de Jacques, au chapitre 5, verset 16, si vous tournez juste une page, il dit « La prière fervente du juste a une grande efficacité. » Donc on voit que Dieu répond, mais il y a une manière de prier qui plaît à Dieu. Alors parfois, il y a des choses qui sont des obstacles, bien sûr, à la prière. On a vu ici les passions, l'obstacle à la prière. Le fait de chercher à satisfaire ses propres passions, c'est un obstacle à la prière. Mais dans Proverbe 28, 9, la désobéissance à la parole de Dieu est un obstacle à la prière aussi. Je lis ceci. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, Proverbe 28, 9, sa prière même est une... Quoi? Quel mot il emploie? Une abomination. Imaginez, c'est-à-dire que quand on n'écoute pas la loi de Dieu, la parole de Dieu qui nous dit voilà comment nous devons nous conduire, on a l'enseignement, on sait ce que l'on doit faire, et après... On vient pour prier, il dit, c'est une abomination aux yeux de Dieu, parce que Dieu veut qu'on obéisse à sa parole. Et si on obéissait à sa parole, on prierait pas même, on serait même gêné d'être dans cette attitude. Et parfois, on compte des gens qui nous disent, je sais que ça, c'est pas comme ça que je dois le faire. Je sais que la parole de Dieu, elle dit ceci. Mais la situation est telle que je suis obligé de faire cela. Et puis, je prie le Seigneur que cette prière est une abomination, dit Dieu. Parce que, il dit, on connaît la parole, on détourne l'oreille pour ne pas l'écouter et on prie. Donc ça crée un obstacle. Un dernier exemple, dans Pierre, 1 Pierre chapitre 3, dans le couple, l'apôtre Pierre dit ceci, « Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Alors, tout le monde n'a pas une femme ici, mais on doit montrer de la sagesse dans le rapport avec tout le monde de toute façon. Mais, particulièrement dans le couple, il dit cela. Il dit, comme avec un sexe plus faible, honorez-la comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Ça, c'est dans 1 Pierre 3, verset 7 là, et suivant. Honorez-la comme devant hériter avec vous des grâces de la vie. Et puis, il ajoute, qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Autrement dit, si monsieur agit envers son épouse de n'importe quelle manière, en la brusquant, en la brimant, en ayant des mots durs, des injures, et ça se fait même parmi les chrétiens, il dit c'est un obstacle à la prière. Parce que ce qui pousse au mot dur, c'est quoi? C'est les passions qui combattent. Donc, il faut que les choses aillent comme je veux. Et parce que je ne suis pas satisfait, voilà, je réagis de cette manière-là. Qu'un tel homme ne s'attende pas à être exaucé de la part du Seigneur. Sa prière est une abomination. La situation, sa manière d'agir crée un obstacle à sa propre prière. À sa propre prière. Et donc, qu'est-ce que ça nous pousse à faire? Ça nous pousse à considérer ce soir la prière, non pas comme quelque chose que l'on veut faire pour les autres, prier pour les autres, prier pour telle situation, prier pour telle autre, etc. Mais penser aussi à nous-mêmes et à prier les uns pour les autres, mais en pensant aussi à prier pour nous-mêmes. Demandons au Seigneur d'ouvrir nos yeux sur notre propre situation, sur notre propre cœur. D'accord ? Parfois, on regarde toujours chez les autres, on voit toujours les fautes. Qu'il nous aide à voir dans notre propre cœur ces désirs, ces passions qui combattent. Qu'on puisse les confesser, qu'on puisse demander au Seigneur la grâce, n'est-ce pas, comme de ne pas nous laisser guider, ne pas laisser nos relations altérées par nos passions. Qu'on puisse demander pardon pour cela. Qu'on puisse prier dans la direction de la recherche de la gloire de Dieu et non pas pour satisfaire nos envies, ce que nous avons envie de voir se réaliser. N'est-ce pas ? Que nous soyons patients avec les autres. On peut prier pour les couples de notre Église aussi, que les uns et les autres se conduisent avec sagesse afin que leurs prières puissent être agréé par Dieu, afin que nos prières puissent être agréées par le Seigneur. Donc nous avons besoin de prier cela. Il y a des difficultés en dehors des façades que l'on peut voir. Donc prions les uns pour les autres. On doit prier ces choses au Seigneur. Ne pas être dans une attitude où on pense que tout va bien pour nous-mêmes et que tout va bien pour les autres. Nous sommes des pécheurs et nous avons besoin de la grâce de Dieu chaque jour, chaque jour, chaque jour. Et quand les choses sont difficiles, ne commençons pas à dire c'est l'autre. Commençons à dire, Seigneur, montre-moi ce qui en moi ne va pas, en moi doit changer. Ouvre mes yeux, que je puisse voir. J'ai besoin d'apprendre dans cette situation des choses. Donc prions que le Seigneur nous aide ainsi les uns les autres à voir en nous-mêmes, à confesser pour nous-mêmes, à nous détourner de notre propre péché, à prier les uns pour les autres aussi, avec ce que nous avons vu ici. Qu'il n'y puisse rien y avoir. Avoir qui fasse obstacle dans notre propre vie, à notre propre prière, même à notre propre prière ce soir. On peut venir, même en tant qu'Église, et puis Dieu dit, comme dans Amos, éloignez de moi le bruit de vos cantiques, je ne puis les entendre. C'est possible que Dieu nous dise ça, parce que s'il sait que dans nos cœurs, eh bien, nous avons des choses qui font des obstacles à la prière. Donc, prions, et soyons honnêtes devant le Seigneur, demandons-lui de nous aider, de nous diriger, de nous pardonner, de nous purifier pour que notre vie de prière, notre prière en tant qu'Église aussi puisse être conforme à sa volonté. On va prendre quelques sujets de prière et puis on va se séparer.